Ouais, ça a l'air de marcher. C'est bon. Bon. Alors, donc, je m'appelle Patrick Coulon. Je vais me débrouiller tout seul, apparemment. Qui je suis, je suis dans l'équipe d'animation du LEM. Vous voyez ce que c'est? C'est le lieu d'études du mouvement des connaissances. C'est un organisme qui a été créé au dernier congrès du parti, qui est chargé d'essayer d'éveiller l'attention de la direction du parti sur les mouvements des connaissances, des choses qui bougent dans la société. Je fais partie également de l'équipe d'animation d'Espace Marx et je sévis aussi à la revue du projet et à la pensée. Beaucoup de défauts. Hein. Ensuite, à la suite justement d'un article que j'avais commis il y a quelques mois pour la revue du projet MEDEF et compagnie, qui reprenait un certain nombre de bouquins qui venaient de sortir autour des questions du patronat, du MEDEF, des élites. J'avais fait une petite recension, vous voyez, on prend quelques bouquins et on en fait une petite tambouille. On m'a dit, mais si tu transformais tout ça en conférence, d'accord. Donc, c'est ce que je vais donc essayer de présenter devant vous. Et donc, je me suis demandé, qu'est-ce qui peut être utile aux camarades qui participent à l'université d'été par rapport à cette question MEDEF et compagnie. Donc, je me suis dit que peut-être ce qui était le plus intéressant, c'était de voir comment les forces du capital, donc MEDEF et compagnie, interviennent dans le champ idéologique et politique. Donc, je dirai quelques mots sur l'évolution du patronat, hein, du CNPF au MEDEF, comment le MEDEF travaille la société avec une volonté politique, des moyens, une télévision, une université d'été. Donc, vous avez certainement dû entendre parler. Je dirai quelques mots sur le fait que les forces du capital, ce ne sont pas le seul MEDEF, mais qu'il y a aussi, mais ça je passerai très très vite, hein, la CGPME, et puis c'est les petites et moyennes entreprises, et puis les artisans, le petit patronat on va dire, c'est pas lui qui a la force de frappe.
Tu peux fermer la porte s'il te plaît ?
Je vous parlerai aussi de la FEP. Je vous dirai aussi comment il travaille aussi la société avec une multitude de, vous excuserez mon anglais, mais on dit des think tanks, des boîtes à penser, dont les principales sont celles qui ne sont pas directement dans l'orbite du MEDEF, mais qui travaillent pour lui, hein, parce que comme tout organisme, il y a les prérogatives et ce qui est autour. Hein, je vous parlais de l'Institut Montaigne, de l'Institut de l'Entreprise, de la Fondapol, l'IFRAP, par exemple. Je vous dirais aussi qu'une de leurs façons de travailler, c'est aussi ce que j'appelle, moi, là, j'ai pas trouvé d'autre mot, la porosité entre milieu politique et milieu économique. Donc je jetterai un petit coup de projecteur là-dessus. Hein. Voilà comment on va faire. Donc, avant de se nommer MEDEF, la force principale du patronat est passée par d'autres appellations correspondant à l'évolution successive du capitalisme, de la lutte des classes, car il faut bien appeler les choses par leur nom. Le patronat de tout temps, de façon circonstanciée, certes, mais de tout temps, cherche à imposer dans l'espace public des solutions pratiques et ou des représentations propres aux visions du monde de l'entreprise. Il vise à influer le politique dans la prise de décision, à produire un sens commun ou des schémas de pensée orientant ou visant à orienter les conduites spontanées des autres acteurs, ce qu'en d'autres temps ou en d'autres termes, on aurait appelé une lutte idéologique, une bataille pour l'hégémonie. Je vous rappelle, vous me permettrez de vous rappeler que le concept d'hégémonie culturelle, c'est un concept développé par Antonio Gramsci, tout le monde voit, philosophe, dirigeant du parti, qui a passé pas mal de sa vie en prison, et constatant que les révolutions communistes promises par la théorie de Marx n'avaient pas eu lieu dans les sociétés industrielles de son époque, Gramsci formule une hypothèse. Si le pouvoir bourgeois tient, ce n'est pas uniquement par la main de fer dans laquelle il tient le prolétariat, mais essentiellement grâce à son emprise sur les représentations culturelles de la masse des travailleurs. Cette hégémonie culturelle amenant même les dominés à adopter la vision du monde des dominants et à l'accepter comme, entre guillemets, allant de soi.
On le vit encore aujourd'hui.
cette domination se constitue et se maintient à travers la diffusion de valeurs au sein de l'école, l'église, des partis, des organisations, des institutions scientifiques, universitaires, les moyens de communication de masse. Autant de foyers culturels propageant des représentations qui conquièrent peu à peu les esprits et permettent d'obtenir le consentement du plus grand nombre. Face aux syndicats de salariés, donc, aux initiatives de l'État, le patronat s'organise et tente de construire un point de vue commun. Une remarque. Du fait de son étymologie, le mot patron, du latin pater, a une connotation à la fois religieuse et familiale. Patron apparaît en France au XIIe siècle, avec la signification de saint patron, c'est-à-dire du saint ou de la sainte dont on a reçu le nom de baptême et qui joue désormais le rôle de protecteur attitré. Mais ce n'est qu'en 1830 que le mot patron prend le sens de chef d'une entreprise économique par rapport à ses employés. La première apparition dans un texte officiel date de 1848 dans un décret sur les conseils de prud'hommes. Encore un rappel, il faut quand même savoir qu'en 1896, les entreprises employant de 1 à 5 personnes représentent 94% des établissements. Dans ces entreprises familiales, le chef incarne le pater familial en tant que patron. Il s'ensuit tout un système de relations paternalistes théorisé dans la seconde moitié du XIXe siècle sous la notion de régime de patronage. Le paternalisme est un rapport social dont l'inégalité est déviée, transfigurée par une métaphore sociale qui assimile le détenteur de l'autorité à un père et les agents soumis à cette autorité, ses enfants. Cette métaphore tend à transformer les rapports d'autorité et d'exploitation en rapports éthiques et affectifs, et le sentiment se substitue au règlement ou au conflit. Le paternalisme, qui est inspiré du catholicisme social, est ambivalent avec à la fois une fonction de domination sociale sur les ouvriers et ouvrières et de contrôle quasi permanent de ceux-ci dans et hors de l'usine. Le paternalisme a aussi une connotation positive dans les rétributions matérielles et symboliques qu'il préconise à certains ouvriers. Par exemple, être salué par le patron, marque de reconnaissance de son travail, valorisation des qualités professionnelles, etc. Le patronage joue beaucoup de ça. Jouait. C'est en 1919 qu'est créée une organisation nationale ayant vocation à regrouper les patrons de commerce et d'industrie, la Confédération Générale de la Production Française. L'explosion sociale du Front Populaire en 1936, la victoire électorale de ce Front Populaire, transforme le système des rapports sociaux. Cela pousse les chefs d'entreprise à se rassembler et à institutionnaliser ce rassemblement pour une unité d'action et d'organisation. En 1945, au sortir de la guerre, l'enjeu de la réorganisation patronale est de rompre avec le passé récent. Le patronat est accusé, et à juste titre, de collaboration, pour beaucoup, de collaboration avec le régime de Vichy et de tirer les leçons de l'échec, de leur point de vue, de 1936, où le patronat s'est retrouvé sans rapport de force dans les négociations, puisque pas organisé. La résistance à l'activisme militant du Conseil national de la résistance, du poids de la CGT et du Parti communiste dans le processus politique va servir de ciment à une action cohérente et centralisée autour de la contre-offensive par rapport à la Société Générale, aux nationalisations, le programme de CNR, Conseil national de la résistance. Je passe très très rapidement sur l'épisode 45-97. Sur les années après-guerre qui verront donc le patronat s'activer pour se reconstruire, travailler à garder un pied dans les colonies françaises ou à gérer la décolonisation, absorber le choc de mai 68 et à combattre la menace du programme commun de la gauche, son lobbying forcené pour contrecarrer les mesures sociales et économiques du premier gouvernement avec participation communiste de 1981, elles sont pour beaucoup dans l'inflexion amené en 83-84, qui verra d'ailleurs le départ des ministres communistes. Avec le retour de la gauche au pouvoir en 1997, les formes de relations établies par le CNPF, le patronat de l'époque, dans la décennie précédente avec le pouvoir, se trouvent bouleversées. Il faut quand même savoir qu'en 1997, c'est Chirac, et Chirac a vraiment beaucoup fait pour satisfaire les demandes patronales. En témoigne l'échec des tentatives pour s'opposer à la mise en place des 35 heures. Afin de rétablir son influence, l'organisation patronale révise alors sa place dans la société et la politique en ne se définissant plus seulement comme représentant des patrons dans le cadre du dialogue social, entre guillemets, hein, dialogue social, mais comme le porte-parole de l'entreprise et d'une vision entrepreneuriale de la société. Alors on passe de défense des patrons à une vision de toute la société, avec le modèle entreprise. Sa nouvelle stratégie cherche à multiplier et systématiser de nouveaux points d'accès au processus politique. Le 27 octobre 1998 se tient à Strasbourg l'Assemblée générale du CNPF intitulée « En avant l'entreprise », rassemblant 1700 chefs d'entreprise et qui a pour but de marquer un tournant dans l'histoire de l'organisation patronale, un nouveau, entre guillemets, un nouveau départ concrétisé par son changement de nom et de statut. Le CNPF devient le mouvement des entreprises de France. Je vais vous dire très 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 rapidement comment Sellière, qui est le responsable du MEDEF à l'époque, s'adresse et explique ce tournant. En transformant le CNPF en MEDEF, nous avons abandonné le vocable de patronat. Donc Sellière, hein, qui dit « En transformant le CNPF en MEDEF, nous avons abandonné le vocable de patronat que nous étions les seuls à utiliser en Europe. Un changement de nom qui traduit une réforme en profondeur, une volonté affirmée d'adapter nos missions aux réalités du monde d'aujourd'hui. Le patronat, figure révolue et contestée, fait place aux entrepreneurs et aux entreprises, tout secteur et toute taille confondue, pour former une force de proposition enracinée sur le terrain et reconnue comme non-partisane. » Une force vive de la société civile, capable d'exprimer haut et fort le point de vue de ceux qui produisent la richesse nationale. D'une manière générale, la notion de patronat s'estompe, les associations d'entreprises se modernisent et s'adaptent au monde qui les entoure. Donc ça, c'est Sellière qui répond. Au-delà de la suppression du mot patron qui a l'odeur des mines de Zola, il s'agit d'impulser une dynamique nouvelle, hein, c'est le mouvement des entreprises de France, de rassembler les troupes en vue du combat. Le vocabulaire guerrier est systématiquement mobilisé pour décrire cette phase de contre-attaque par le MEDEF. Et les commentateurs d'ailleurs soulignent, il s'agit de dénoncer le projet Aubry, hein, sur les 35 heures, qui selon le MEDEF porte atteinte à la valeur travail, hein, et constitue, oui, valeur travail, c'est bien là, et constitue une aberration d'abord parce qu'il est décidé autoritairement par l'État sans consultation, ensuite parce qu'il est une charge trop lourde et pénalisante pour les entreprises. Et d'ailleurs, c'était la fameuse phrase de Sellière, « Tout le monde ne chausse pas du 35 », c'était sa petite phrase favorite. Du point de vue des statuts de l'organisation, très important, le MEDEF affirme que la nouvelle gouvernance s'inspire des entreprises performantes. Le conseil exécutif s'élargit et devient pleinement décisionnaire. Avant, c'était par consensus, maintenant majorité et on tranche. Le réseau de terrain sont renforcés, 155 unions territoriales prennent le sigle de MEDEF territorial. Les commissions sont remplacées par des groupes de propositions et d'actions. L'accent est nettement mis sur la communication. Je cite, « Il faut se battre avec les armes de son temps. » Ernest-Antoine Sellière instaure une conférence de presse mensuelle. Il envahit presse, radio et plateau de télévision. Et il fonde avec Denis Kessler la première université du MEDEF sur le thème « Entreprises et sociétés ». Et la stratégie de communication passe aussi par un tour de France des grandes villes pour tenir des meetings. L'opposition à la loi sur la réduction du temps de travail est fortement mobilisatrice pour le patronat. 4 octobre 1999, peut-être certains s'en souviennent encore, le MEDEF rassemble 30 000 personnes à la porte de Versailles sur le thème de la liberté d'entreprendre et pour dénoncer le projet de loi Aubry. Par ce fort investissement de la scène médiatique et politique, en 1998-2000, le MEDEF cherche à s'affirmer comme le pivot du débat économique et social. Après l'entrée en vigueur de la loi sur les 35 heures, le 3 février 2000, le MEDEF invite les partenaires sociaux à une refondation sociale pour rénover le paritarisme français en élaborant une nouvelle constitution sociale sans l'État. Plusieurs chantiers touchant tous les domaines des relations du travail et de la protection sociale sont mis en œuvre. tous promouvant une vision entrepreneuriale de la société, hein, comme je disais tout à l'heure. Cela est d'ailleurs confirmé par l'article 1er des nouveaux statuts du MEDEF qui s'assigne le rôle de replacer l'entreprise au centre de la société française en favorisant la liberté d'entreprendre et en exerçant un véritable leadership d'influence. La stratégie de la refondation sociale vise donc à contrer l'action législative et réglementaire de l'État et à mettre les entreprises au centre du débat public. Et autre élément du discours de la refondation sociale, c'est la promotion d'un capitalisme à visage humain, moins arrogant, pour éviter la contestation morale qui valorise l'entreprise citoyenne. Plusieurs essais d'ailleurs commandent ce projet de société du MEDEF en s'attardant sur les théoriciens de la refondation sociale, notamment sur le rôle prépondérant de Denis Kessler. Tiens, ça fait deux fois. Les commentateurs s'accordent pour dire que la refondation sociale a fourni l'occasion à l'aile libérale du patronat, il est travaillé par plusieurs courants, d'exprimer sa doctrine sociale. De nombreux thèmes développés par le MEDEF et les cercles patronaux vont d'ailleurs être repris dans la campagne électorale de la droite en 2002. Le dialogue, je cite, « Le dialogue social, les retraites et l'assurance maladie sont au centre du débat dans les programmes électoraux. Mission accomplie », estime le MEDEF dans son bilan annuel. Pour visualiser, alors j'ai pas ici, c'est dommage, le logo du MEDEF qui illustre bien ce changement de stratégie. Son analyse donc est significative de la volonté, avec son logo, ses trois visages, celui des dirigeants, celui des salariés et celui des actionnaires, et avec les couleurs de la France et celles de l'Europe. Je parlais un peu plus haut des nouveaux statuts du MEDEF. Il faut savoir que parmi les sept missions que le MEDEF se donne dans l'article 1 de ses statuts, les cinq premiers concernent directement ses actions de lobbying et d'intervention dans le débat public. Donc je disais, pour diffuser ses idées, pour gagner la bataille idéologique, s'assurer l'hégémonie culturelle afin d'influer les prises de décisions favorables dans les lieux de pouvoir, le MEDEF, et pas que lui, j'y viendrai plus tard, s'est construit des outils performants. J'en déclinerai quatre. La force de ces structures décentralisées, des moyens de communication, avec des moyens de patrons, présence sur les réseaux sociaux, l'impact médiatique qu'a pris son université d'été. Je passe rapidement sur les canaux de proximité que constitue le réseau des MEDEF locaux. J'indiquerai seulement qu'ils emploient un certain nombre de permanents, 18 055, et que la part et de la part du système de représentation français social, les MEDEF territoriaux fournissent et donc forment des milliers de délégués élus. Par exemple, le MEDEF a 7000 mandats électifs dans les conseils de prud'hommes, 3000 dans les tribunaux de commerce, 5000 dans les chambres de commerce et d'industrie, 650 dans les conseils économiques et sociaux régionaux. Je passe, hein, parce que sinon là, 900 administrateurs assédiques, 1200 dans les commissions paritaires de l'assurance chômage. Ils sont 2000 représentants dans les caisses retraite complémentaires ARCO, 700 dans les caisses de l'ARGIC. Ils sont 6000 dans les organismes qui collectent pour la formation initiale et continue, etc., etc. Ça fait du monde, ça fait des têtes, ça fait des bras.
18 500 permanents embauchés par le MEDEF.
18 055, oui.
C'est l'horreur.
Ben oui, puis ben je reviendrai dans la discussion. Mais oui, parce que ils forment l'aide juridique aux entreprises, les conseils pour les prud'hommes, etc., 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 les élus.
C'est une brève.
On va dire ça, ouais. Les moyens de communication. Évidemment, il y a la bataille permanente pour être présent dans les médias.
Ah bah tiens. Alors.
Et pour eux, c'est parfois ouvert en permanence.
L'assommoir des médias.
Et puis, il y a ceux qu'ils possèdent. Hein. Juste, Dassault, Figaro, Lagardère, Europe 1, Bouygues, TF1. Ils sont en même temps marchands de canons. Hein.
Ah oui, oui.
Ils ont, je disais, présence sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, avec Isa Rose. Ils ont beaucoup d'abonnés. Et ce sont des comptes qui vivent. Hein. C'est-à-dire qu'ils envoient. Et un site très très bien fait, et repris d'ailleurs par les sites, par les sites locaux, avec chacun sa petite musique. Au moment où j'écrivais cette intervention, il a aussi sa propre télévision.
MEDEF TV.
Voilà, MEDEF TV, exactement.
Ouais, je regarde tous les jours.
C'est bien, je te félicite. Il a sa propre télévision. Au moment où j'écrivais ça, mais c'était juste avant l'université d'été, j'étais dans une campagne sans moyen de communication, on comptait quand même pas moins de 350 vidéos visibles. Sur des sujets allant, par exemple, de la réforme territoriale, la dernière en date, c'était le ministre en charge de la réforme territoriale, Vellini, qui venait dialoguer avec la représentante du patronat pour expliquer que c'était vraiment bien la réforme territoriale. Donc ça va de ça à la réforme du système de santé. Ah non, c'est réforme du système de santé, deux points, il y a urgence. C'est le titre de la... En passant par les points de presse du président actuel du MEDEF, Gattaz, etc., etc. Donc ils alimentent. Hein. Leurs arguments sont présents en permanence sur les réseaux. Je signale aussi la présence éditoriale. Par exemple, Sellière, quand il était patron, il s'est battu. Il avait sorti un bouquin. Et quand ils mettent un bouquin, ils le diffusent. Ils ont 18 000 permanents qui sont là pour proposer à tout le monde. On n'est pas là pour se faire engueuler. C'était un résumé un peu comment le patronat à l'époque se comportait. Parizeau a sorti deux bouquins. Rappelez-vous le truc. Il y avait changer d'air, A-I-R. Et après, elle a fait changer d'air, E-R-E. E-accent. Voilà. Je vous fais... Ah, ça, c'est mon côté titilleur de les sociodémocrates. C'est le bouquin changer d'air. Elle l'a fait avec le président de la fondation Terra Nova. C'est pour plaisir de le dire. Les universités d'été, je disais, la première donc se tient en août 99, et donc je voulais souligner le rôle de prépondérant de Denis Kessler. Alors là on va se marrer. Donc Kessler, hein, bon, je rappelle peut-être ceux qui ne voient pas, économiste, chercheur, dirigeant d'entreprise, il a été vice-président du MEDEF, il est actuellement président directeur général du groupe SCORE, il est même président de toutes des assurances françaises, donc on comprend mieux pourquoi il s'est tant bagarré pour la réforme de la Sécu, hein, parce qu'il prend le relais, il y a de la thune à faire. Et administrateur de BNP Paribas, Dassault, etc., des plus gros salaires de patronat français. Ancien militant maoïste et CFDT. Le modèle... Allez, écoutez, donc, parce que voilà ce qui... Pour cerner le personnage, le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la Résistance, un compromis entre gaullistes et communistes, il est grand temps de le réformer, et le gouvernement, c'était Sarkozy à l'époque, s'y emploie. Les annonces successives des différentes réformes par le gouvernement peuvent donner une impression de patchwork, tant elles paraissent variées, d'importance inégale et de portée diverse. Statut de la fonction publique, régimes spéciaux des retraites, refonte de la sécurité sociale, paritarisme. À y regarder de plus près, on constate qu'il y a une profonde unité à ce programme ambitieux. La liste des réformes, c'est simple. Prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception. Elle est là, la liste. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la Résistance. Alors, que disait Parizeau de Kessler ? Kessler n'est pas libéral. Il est ultra-libéral. Avec ses provocations, il est capable de bloquer toute la société française. Ils font de l'idéologie, ils font de la politique, ils analysent les rapports de force en permanence. Il incarne donc la droite dure du patronat. C'est un ami très proche de Strauss-Kahn. Bon voilà, j'en ai assez dit. Donc ce monsieur, c'est un cador, hein, c'est un dirigeant, oui. Non, je parle de Kessler. Donc, ces universités, il met en place les universités d'été. Ces universités d'été, qui réunissent plusieurs milliers de participants, qui s'abreuvent de dizaines de conférences-débats, de plénières, rôdent les arguments nécessaires à leur bataille idéologique et affinent leurs exigences vis-à-vis du pouvoir en place, quel qu'il soit. Y participent des grands patrons, des chefs d'État, des représentants du gouvernement, des intellectuels. Avant de vous exposer le programme de celle qui se tient en ce moment même, j'aimerais vous redonner les intitulés de celles qui se sont déjà déroulées. Elles sont significatives des objectifs du patronat, mais également de l'état de l'opinion, du degré de mobilisation du mouvement social, du rapport des forces politiques. Donc 2000, nouvelle économie, nouvelle société. 2001, création de valeur, respect des valeurs. 2002, entreprendre dans un monde d'incertitude. 2003, la grande transformation. 2004, ça tourne. 2005, réenchanter le monde. 2006, concilier l'inconciliable. Et là, Sarkozy vient à l'université d'été et rôde son discours visant à restreindre le droit de grève. 2007, jouer le jeu. Il est élu. Jouer le jeu. 2008, voir en grand. 2009, à la recherche des temps nouveaux. Là, on est en pleine crise. 2010, l'étrangeté du monde, mode d'emploi. 2011, village et planète, objectif B20. La France dirige le G20 qu'elle réunit. Le MEDEF, son université d'été, expose ses demandes. 2011, village, je l'ai dit. 2012, intégré. C'est Hollande qui est élu. 2013, 2020, faire gagner la France. C'était... En 2013, le gouvernement Hollande demande à Pisani de travailler sur les options possibles des grands enjeux économiques à venir sur les 20 prochaines années. Et eux, ils travaillent là-dessus à leur université d'été. 2014, une France qui gagne dans un monde qui bouge. Donc entre le moment où j'ai tiré j'ai réussi à intégrer la participation de Manuel Valls, mais ils ont annoncé la participation de Manuel Valls, mais c'était avant le coup de Trafalgar. Mais bon. Ils découpent leur truc en trois choses. Ils travaillent d'abord sur ils appellent ça un terreau fertile, de leur point de vue, c'est comment rendre fertile le terreau. Hein. Donc ils veulent travailler sur l'école. Alors il y a Manuel Valls, mais ça tout le monde sait maintenant, c'est même plus vrai. L'école de la réussite, l'état de marche, jeu de mots avec l'état de marché, la valeur du travail, une vision pour le futur. Et alors là, atelier innovation. Innovation en rupture en santé. Voilà. Après, il y a une plénière, le plein emploi, c'est possible. Ça, si vous regardez Web TV, tous les jours, toutes les semaines, MEDEF TV, il présente des métiers que les jeunes peuvent faire, etc. etc. Moi aussi. Ensuite, le deuxième jour, c'est la solution, c'est l'entreprise. Des sourires et des hommes, du consommateur au consommateur, entreprise et territoire, réforme territoriale, le maillage gagnant. L'homme et le process sont-ils compatibles? Et là, il y a encore un atelier innovation. Médecine personnalisée et santé globale. Après, il y a une plénière, l'entreprise dans la cité en 2020. Et après, c'est construire le futur tout de suite, avec des grands patrons qui blablatent, mais ça, pour dire qu'ils sont beaux. Ensuite, l'Europe, une chance pour les entrepreneurs. Un monde plus intelligent face aux grands défis. La guerre des mondes, les jeunes vous le disent. Voilà. Et avant la plénière de clôture en Ville de France, en présence du ministre des Finances allemand, un dernier atelier innovation, santé connectée. Donc, trois ateliers sur la santé. Tiens, à mon avis, peut-être qu'on regarde de ce côté-là. Je l'ai dit en introduction, donc ça c'est pour les universités d'été. Je l'ai dit en introduction, le patronat c'est le MEDEF, mais pas que, et c'est là que, en partie, le titre de cet exposé prend tout son sens, et compagnie. Connaissez-vous l'AFEP ? L'AFEP, c'est l'Association française des entreprises privées. C'est depuis 1982 l'association réunissant les grandes entreprises privées qui exercent leur activité en France. Elle est basée à Paris et à Bruxelles. Elle a pour objectif de contribuer à l'élaboration d'un environnement favorable au développement de l'activité économique et de porter la vision des entreprises qui la composent auprès des pouvoirs publics français, des institutions communautaires et des organisations internationales. Le rétablissement de la compétitivité des entreprises pour assurer une croissance et des emplois durables dans l'espace européen et répondre aux défis de la mondialisation est au cœur de ses préoccupations, bien entendu. Là, je cite leur présentation officielle. Et leurs travaux reposent sur la participation directe des dirigeants des entreprises et de leurs équipes à la définition des orientations de politique économique et sociale, ainsi qu'à la détermination des actions à mener dans l'intérêt de la croissance et de l'emploi. Deuxièmement, des échanges directs et concrets avec les pouvoirs publics sur la base d'analyses et de propositions argumentées. Et enfin, une contribution active aux consultations lancées par les pouvoirs publics français et européens basées sur des réponses constructives. Et donc, ils ont leur domaine de compétences et d'intervention, hein, c'est économie, fiscalité, droit des sociétés, gouvernance, financement des entreprises, marché financier, concurrence, propriété intellectuelle, consommation, droit du travail, protection sociale, environnement, énergie, responsabilité sociale et d'entreprise, ça mange pas de pain. La FED compte, alors celle-là ça devient, voilà, pour vous dire, c'est pas le MEDEF, mais 107 membres, je vous la lise pas, parce qu'en gros, vous allez voir. Les effectifs employés par les entreprises de la FEP s'élèvent à plus de 8 millions de personnes. Le chiffre d'affaires annuel cumulé est de l'ordre de 2 000 milliards d'euros. En bref, et son président, c'est Pierre Pringuet, qui n'a pas que des défauts, il est président de Pernod Ricard. On dira que la FEP, c'est le patronat du CAC 40. Voilà. Hein, le MEDEF, c'est tout le patronat. Là, c'est le CAC 40. C'est le patronat ultra-libéral. Il est discret, mais d'une très grande efficacité à la mesure de sa force de frappe économique et financière. Il se dit qu'il est pour beaucoup dans la victoire de Cadaz lors de la dernière baston pour savoir qui prendrait la direction du MEDEF. Donc j'ai dit, mais CG, PME et les artisans, qui ne sont pas, qui sont moins puissants, mais qui ne sont pas les moins réactionnaires, et qui sont peut-être, on va dire, peut-être moins finaux politiques dans leur façon d'intervenir. Un mot rapide sur l'investissement par le patronat français de l'espace européen et des lieux de pouvoir donc européens. C'est ça qu'ils cherchent à travailler. Donc le MEDEF a une antenne Europe, évidemment. Mais il fait partie aussi d'une entité plus vaste, dont le nom, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas une blague, c'est Business Europe. Sur son site, on annonce clairement la couleur. Notre organisation basée on est de 35 pays européens. Nous travaillons pour le compte de nos fédérations membres à veiller à ce que la voix des entreprises se fasse entendre dans la politique européenne. Nous interagissons régulièrement. J'aime bien les termes. Nous interagissons régulièrement avec le Parlement européen, la Commission et le Conseil, ainsi que d'autres acteurs de la communauté politique. Nous représentons également les entreprises européennes sur la scène internationale pour que l'Europe reste compétitive au niveau mondial. Je passe vite parce que sinon on va passer trop de temps. Ce patronat vient avec le MEDEF et d'autres grosses forces de frappe européennes, patronales nationaux, mais là les Allemands, etc., ont sorti une sorte d'agenda qui dit voilà ce qu'on veut pour 2019, c'est-à-dire entre les deux mandats de renouvellement des élections européennes. Donc je ne vous fais pas l'article, hein, c'est comme le MEDEF en France, mais au niveau européen. N'oublions pas non plus le rôle de, certains d'entre vous l'ont déjà entendu parler, la table ronde des industriels, qui effectue auprès un lobbying forcené auprès de la Commission, du Conseil des ministres, le Parlement européen. Son objectif, toujours pareil, stimuler la compétitivité mondiale de l'industrie européenne, notamment en prenant baisse des salaires minimums, réduction des dépenses de sécurité sociale, privatisation des services publics. Ben, c'est pas une porte de gants. Hein. C'est un Français aussi qui est l'actuel patron. C'est le patron d'Air Liquide. Pas mal de Français qui dirigent. Et il se fait 2,7 millions d'euros de salaire L'idéologie patronale s'installe ou cherche à s'installer également dans un nombre non négligeable donc d'instituts, de fondations, de think tanks, autrement dit de boîtes à penser. Bref, de lieux chargés de promouvoir l'idéologie de l'entreprise capitaliste et libérale. Il y a celles qui sont dans l'orbite rapprochée du MEDEF, même si elles ont une certaine autonomie et indépendance. Je vous en citer quelques-unes en disant qui sont leurs dirigeants principaux, parce que tout de suite ça explique bien des fois. Alors bon, je vais faire vite parce qu'il y en a trop, mais autre ton, alors c'est Pepsi qui dirige. Conifère, alors là il y a EADS, des profs d'université, Groupama, BNP, Air France, Société Générale, il y a Compu, alors enfin, Auchan, Carrefour, Coca-Cola, Crédit Agricole, Danone, Darty, EDF, Télécom, Michelin, Peugeot. Bon, je ne vais pas tous vous les dire parce qu'en gros ils sont partout. Ils sont dans Compu, dans Géduc, dans Grenelle, dans Club de l'Habitat, Interseco. Ah non, je dis des bêtises, là il n'y a pas de représentant du patronat. C'est des, entre guillemets, des personnalités. Là, c'est dirigé par Jacques Delors et Pascal Lamy, avec Jean-Louis Bourlange et Pisani, celui qui a fait le rapport pour le gouvernement. La Fondation Mesure, Club du Marché, il est pas bien son nom celui-là. Voilà. Titan, voilà. Bah, Club 8, IAP, Réactif, Pyramide Relais, France Action. Là encore, c'est des dizaines et des dizaines d'intellectuels qui travaillent en permanence, à affiner les thématiques, à. Voilà. D'intellectuels et pas que. D'hommes de conviction pour convaincre des gens de pouvoir à prendre les bonnes décisions. Voilà. Malgré leur diversité, elles ont tout en commun et elles le revendiquent fort, la fonction d'intervenir dans le débat public français. Ça fait partie de leur. Voilà, on est là pour intervenir. Ce sont des groupes de réflexion et d'influence. Ces espaces rassemblent entre autres des hauts fonctionnaires, des universitaires. Leurs activités consistent en la diffusion de notes de synthèse, l'organisation de colloques, la publication d'ouvrages ou encore des interventions dans la presse. Ben, bref, de produire de l'idéologie. Certains privilégient un travail sur les valeurs, d'autres l'action opérationnelle, l'offre de services pratiques aux adhérents aussi. Il s'affiche clairement en faveur, en faveur du libéralisme économique. Ce sont les décideurs politiques qui constituent la cible de choix pour les clubs et cercles patronaux, mais pas seulement. Elles exercent un travail de communication interne en direction des réseaux d'experts, d'avocats, de juristes, de consultants, de journalistes, d'universitaires. On cherche ainsi, d'une manière ou d'une autre, à les associer à l'activité des clubs, en les valorisant, en les enrôlant quelque part. Donc là, je passe parce que je vous dis, Institut de l'entreprise Montaigne, Fondable Social, j'en dirai peut-être un petit mot dans la discussion, sinon ça va trop rallonger le propos. Les clubs ont des contacts directs avec les responsables politiques, au gouvernement, dans les ministères, dans les administrations. C'est revendiqué. Le contact, peut passer par la proposition de texte. Le projet de loi, la proposition de loi d'amendement de directive, donc on vient avec le truc rédigé pour dire voilà, je viens vous donner un service, une aide pour que vous puissiez faire passer la bonne loi pour bien intégrer, que ça soit bien dans la Constitution, bien. Voilà. En sachant que ça, c'est la cerise sur le gâteau, il y a tout le travail de pilonnage avant. Comme le dit pudiquement l'une des responsables de ce club, l'efficacité passe aussi par le dialogue avec les décideurs, dans les contacts one-to-one, comme ils disent, tête-à-tête, ou conseiller avec le conseiller d'un ministre, ou soit le ministre lui-même. Certains soutiennent la recherche académique en accueillant des doctorants, mais aussi en passant des partenariats avec l'éducation nationale. Compu, par exemple, fait un programme d'éducation pour les enfants de 8-10 ans sur les questions économiques. Géduc est un lieu pour un dialogue avec les enseignants des sciences économiques et sociales de lycée pour, comme on dit, tenter de modifier leur posture à l'égard du monde de l'entreprise. Elles se veulent cofondatrices des décisions politiques, initiatives de réforme et des lois, ou comme outil de diffusion d'une réflexion favorable aux entreprises et à leur environnement. je vous indique que 20% des entreprises seraient adhérentes à un club de réflexion, soit par le biais de leur responsable, leur directeur, leur patron, soit par le biais des associations de DRH, des directeurs des ressources humaines. Elles sont indépendantes, mais elles se connaissent entre elles, participent mutuellement à leurs rencontres, n'hésitant pas à unir momentanément leurs forces afin d'organiser une initiative d'ampleur. Elles ont, par contre, tout en commun, une discrétion dans le lobbying et une communication tapageuse d'idées favorables au monde de l'entreprise. Nous l'avons vu, moi je fais l'hypothèse que, confronté à sa crise, le capitalisme s'adapte. Il déploie des efforts considérables pour imposer sa vision de l'organisation de la société afin de garder la maîtrise et travailler les lieux de pouvoir, là où se prennent les décisions, du local au national en passant par l'européen et le mondial. Il est un aspect qui est moins connu et a toute son importance dans la construction de l'hégémonie en faveur du capitalisme, est ce que j'appellerais la porosité entre le capital et le personnel politique. Cette porosité, alors moi je dis porosité, chacun trouvera le mot qui voudra. L'illustration la plus symbolique, à mon avis, est celle qu'a démontré Nicolas Sarkozy quelques heures seulement après avoir été élu président de la République. Rappelez-vous, un de ses premiers gestes politiques fut, aux yeux de tous d'ailleurs, fut de ripailler avec ses amis, proches politiques et du monde des affaires. Je veux parler du fameux dîner du Fouquet's. Allez, une petite liste d'invités, parce que ça, mieux qu'un grand discours et une grande théorie, ça dit tout de suite. Agostinelli, fondateur du fonds d'investissement, il est responsable de l'association d'amitié avec Israël. Arnaud, LVMH, numéro 1 du luxe français, première fortune. Bazir, secrétaire général de LVMH, mais qui a été dans les cabinets de Balladur. Bernheim, banquier d'affaires. La Generali, qui assure la compagnie d'assurance, Bolloré, c'est Havas, sixième groupe de communication mondial, Bouygues, PDG TF1, je sais pas, Deco, leader mondial du mobilier urbain, c'est Deco, c'est voilà. Patrick Cron, on a entendu parler pas il y a longtemps, c'est le PDG d'Alstom. Alain Minc, le fameux. François Pinault, 77e fortune mondiale. Proglio, PDG de Veolia. L'ancienne Société Générale des Eaux, François Sarkozy, je le cite parce que vice-président du conseil de surveillance de Biopharma Alliance Pharma, c'est la santé. Guillaume Sarkozy, frère du président, il était vice-président du MEDEF. Voilà, allez pour la bonne bouche, PDG de Dassault, Serge Dassault, sénateur UMP, directeur de Figaro. Pierre Giacometti, directeur général d'Ipsos France. Vous voyez bien tout ce milieu est parlant. Mais Hollande n'est pas en reste. Alors, j'ai retrouvé un certain nombre de petites pépites, quelques exemples. Une des premières choses qu'il a fait, c'était de nommer Jean-Pierre Jouyet, qui est l'ancien secrétaire aux affaires européennes de Sarkozy, président de l'autorité des marchés financiers, et qui depuis des années préconise de faire comme Schröder en Allemagne. Il le nomme donc à la Caisse des dépôts et consignations, c'est le bras financier de l'État. Et à ce titre, siège dans de nombreux conseils d'administration du CAC 40, en tant que responsable de la de Caisse des dépôts et consignations. Son adjoint, c'est Antoine Gosset-Grinville, ancien directeur de cabinet de François Fillon. À la DOPI, il nomme François Lescure, ancien patron de Canal+, administrateur de la société Havas, de Bolloré, tout ça c'était au Fouquet's, et patron de Nagra. Qu'est-ce que c'est Nagra? C'est ce qui verrouille Internet pour pas qu'il y ait d'échanges. C'est lui qu'on met pour régler la DOPI. Autre exemple, Marion Boujard. Alors celle-là, personne n'en a entendu parler, C'est la conseillère communication du budget à l'époque de Cahuzac. Alors, c'était la conseillère de Liliane Bettencourt. Alors, écoutez bien. Liliane Bettencourt, c'est la championne du monde de l'évasion fiscale. Et on nomme cette femme au ministère de l'économie, dont une des missions est de repousser l'évasion fiscale. Mais par exemple, on a su Mathieu Pigas, banquier de Lazare, qui est conseiller direct, qui avait un bureau auprès de Moscovici, ministre de l'économie. Hollande encore. Ça, c'est pas trop connu. Bon, mais ça, c'est l'effet du présidentialisme. Et quand Hollande, il a gagné la primaire, il a déjà pas fait la primaire sur le programme du PS. C'est Aubry qui l'a fait. Et puis après, il y a eu la campagne électorale proprement dite. Et là, il a réuni ses propres économistes. Mais là, sans faire trop de tapage. Eh bien, dans ces réunions conseils, dans cette assemblée d'économistes, il y avait par exemple le président du cercle des économistes, Jean-Hervé Lorenzi, qui animait plusieurs groupes de travail. Il a fait partie de l'équipe qui a construit le programme économique de Nicolas Sarkozy. Ce monsieur-là, il y a à peine 2 mois, début juillet, lors d'une rencontre du cercle des économistes, il a demandé très très officiellement réduction des impôts sur les revenus du capital, suppression de l'ISF. Mais aussi, avec Hollande, il y avait Gilbert Sept de la Banque de France, celui à qui Nicolas Sarkozy avait demandé un rapport pour savoir comment fallait s'y prendre pour casser le SMIC. Il y a aussi l'associé gérant de la banque Rothschild. Alors, entre le moment où j'écris ça et maintenant, vous allez voir, Emmanuel Macron, voilà, qui est devenu secrétaire général de l'UBI. Et maintenant, voilà. Philippe Aguillon, professeur Harvard, et Stéphane Bouna, qui était conseiller de DSK, qui étaient tous dans la commission Attali. Vous vous souvenez de la commission Attali, mise en place par Nicolas Sarkozy, qui avait fait une cascade de mesures de déréglementation économique et sociale, et qui précisait, cette commission, toutes ces mesures devront être poursuivies avec ténacité pendant plusieurs mandats, quelles que soient les majorités. Pour revenir à cette porosité, j'emploierai le terme de concubinage. Elle s'exerce aussi lors de la formation, entre guillemets, des élites. Ainsi, beaucoup sont formés à l'ENA, Polytechnique, Centrale. Ils passent par l'inspection des finances, la Cour des comptes, les mines, Ponts et Chaussées, etc. Ils servent dans les cabinets ministériels avant, pour beaucoup d'entre eux, rejoindre le monde des affaires. Donc ils savent comment ça marche. La politique est où faut taper à quelle porte pour... tout ce petit monde de décideurs politiques ou économiques baigne dans le même bain, le même moule. Il s'y noue des relations précieuses et continues. Cette porosité se décline aussi dans l'activité de certains lieux, des lieux où se côtoient membres, entre guillemets, toujours de l'élite économique et politique. Je parlerai brièvement de 4 d'entre eux. Le siècle, Bilderberg, la trilatérale, Davos. Bon, on commence par le plus connu, Davos, je crois. Tous les ans, donc en janvier, des milliers de participants, la plupart issus de grandes entreprises, se retrouvent en altitude, comme nous, pour deviser sur la gestion du monde, des grands problèmes selon eux, rencontrés par la planète, et échanger sur les solutions adaptées de leur point de vue. Là encore, mieux qu'un long discours, un zoom sur quelques intitulés des ateliers qui s'y sont tenus, seront révélateurs à la fois des visées, mais également de leur analyse du rapport des forces contemporains. J'ouvre tout de suite une parenthèse pour indiquer qu'il s'y produit de l'idéologie, mais pour beaucoup, c'est aussi un moyen d'entretenir ces réseaux et d'y faire des affaires. Puisque nous sommes en altitude, profitons-en pour dresser le panorama. Donc le financement est assuré par 1000 entreprises. Membre, le profil type est une multinationale réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 3,7 milliards d'euros. Dans la rencontre, c'est représentants des 1000, plus des responsables politiques, des représentants des milieux universitaires, des ONG, des responsables religieux, des personnalités du monde des médias. Donc, dans le dernier, il y avait 2200 participants, 200 ateliers et 500 journalistes qui suivent les travaux. En 2014, de quoi ils ont parlé? C'était en janvier, là. C'était le remodelage, le thème central. Ils avaient choisi de, alors pour montrer qu'ils mettent le paquet, ils ont fait venir le nouveau président de l'Iran, Hassan Rouhani. Ils ont fait venir des dirigeants d'Afrique. Ils ont fait parler le responsable d'Israël sur les perspectives économiques et politiques d'Israël. Ensuite, comment redessiner le monde par l'esprit d'entreprise. Et cette vision du modelage vue par le Premier ministre du Japon, le Premier ministre d'Australie, par Cameron d'Angleterre, par je me rappelle plus le nom de la brésilienne. Hein. Voilà, vous suivez. Et mexicain. Et Christine Lagarde, il a fait un très grand discours sur quel avenir du monde en 2014. Et alors, j'ai choisi quelques extraits, quelques paroles fortes entendues dans cet échange qui fut un des points forts de Davos. Alors je vous dis, vous allez le découvrir tous vous-même, mais la santé ne se contente pas de nous rendre plus heureux, elle contribue à la croissance économique. Nous devons penser la santé comme un domaine d'investissement. Dans le monde développé, il y a plus de 4 milliards de dollars par an de dépenses. Un tiers est gaspillé, il nous faut mieux cerner les résultats de cet investissement. Investissement dans la santé. Notre capacité à comprendre ce qui se passe dans le corps est sans précédent. Maintenant, nous devons nous engager à mieux comprendre le cerveau. Donc, moi, quand je vois qu'à Davos, parle de la santé, qu'au MEDEF, trois ateliers sur la santé, hein, la trilatérale. Là, c'est des dirigeants des multinationales, c'est plus vieux, dirigeants des multinationales, gouvernants des pays riches et partisans du libéralisme économique ont vite compris qu'ils devaient se concerter s'ils voulaient imposer leur vision du monde. Dès juillet 1973, dans un monde alors bipolaire, David Rockefeller, milliardaire, lance la commission trilatérale qui va marquer le point de départ de la guerre idéologique moderne. Moins médiatisée que le forum de Davos, elle demeure très active au travers d'un réseau d'influence aux multiples ramifications. Dès 1973, donc, elle se fixe l'objectif de devenir un organisme privé de concertation et d'orientation de la politique internationale des pays de la triade, États-Unis, Europe, Japon. Sa charte fondatrice résume, je cite, « Centrée sur l'analyse des enjeux majeurs auxquels font face l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et le Japon, la Commission s'attache à développer des propositions pratiques pour une action conjointe. » S'y côtoient à huis clos des dirigeants des multinationales, des banquiers, des hommes politiques, des experts de la politique internationale et des universitaires. Chaque sujet abordé fait l'objet d'un rapport annuel. Ils traduisent l'attention et la volonté d'affluer de la trilatérale sur des sujets tels que la réforme des institutions internationales, la mondialisation des marchés, l'environnement, la finance internationale, la libéralisation des économies, la régionalisation des échanges. Et les préconisations s'articulent autour de la nécessité d'un nouvel ordre international. Le cadre national serait trop étroit pour traiter des grands enjeux mondiaux, dont la complexité et l'interdépendance sont sans cesse réaffirmées. Cela, évidemment, justifiant et légitimant les activités de cette trilatérale, à la fois observatoire privilégié et contre-maître de cette nouvelle architecture internationale. Bilderberg. Disons-le d'entrée, il est difficile d'avoir des informations sur ce club d'initiés. En font partie, là encore, des hommes politiques de haut rang, des patrons de multinationales, des gouverneurs de banques centrales, des journalistes acceptant de ne pas rendre compte des travaux. Y ont participé Betou, qui est le nouveau directeur du journal L'Opinion, et Stéphane Adler, Adler de International, voilà, Courrier International, des têtes couronnées, des experts. Il se réunit tous les printemps dans une ville différente, pas de site internet, pas de conférence de presse. de façon, comme dit l'autre, si tu parles, t'es blacklisté. L'idée est que les dirigeants du monde puissent se parler en privé. On y parle géopolitique, stratégie. À Davos, un gars qui a fait un bouquin dont je vous donnerai les coordonnées à la fin de l'exposé, à Davos, il dit, on paye pour voir et se faire voir. Au Bilderberg, on y vient pour entendre sans se faire voir. Rien ne s'y décide formellement, dit-on, mais il s'y élabore du consensus pour les élites politico-médiatico-économiques. Cette année, le thème de cette réunion, c'était « Qu'en est-il vraiment de la reprise économique ? L'avenir de la démocratie ? Où en sont les classes moyennes ? La situation au Moyen-Orient ? La montée du nationalisme en Europe ?» Et selon l'universitaire Geoffroy Guens, le Bilderberg illustre la collusion structurelle entre élite des affaires et élite politique et médiatique. Le siècle. Son objectif, faire se rencontrer les élites pour mieux se connaître au-delà du clivage gauche-droite. 10 fois par an, le dernier mercredi du mois, les membres du siècle se réunissent à l'hôtel de Crillon, à Paris. Comment on y procède ? Oh bah, c'est simple. De 20h30 à 21h, apéro. Pas mal ça. De 21h à 22h45, dîner par groupe de 8 autour d'un chef de table qui organise le débat. Dans le film Les Nouveaux Chiens de Garde, les réalisateurs dénoncent le siècle comme lieu de collision entre les élites économiques, politiques et médiatiques.
Les journalistes.
Oui, et médiatiques, j'ai dit. Il est savoureux de constater qui sont les deux derniers présidents. Kessler et Nota.
Nota,
l'ancienne de la CFDT. Oui. Nicole de son prénom, voilà. Leur thème, hein, c'est se rencontrer en abaissant les frontières. Alors, est-ce que ce sont ces lieux-là, est-ce que ce sont des lieux d'un pouvoir occulte ? Moi, je dirais l'hypothèse la plus réaliste, pas là qu'on prend les décisions. C'est qu'il s'y décide un bain décisionnel, hein, plus. Parce que les États et les politiques décident en dernier ressort. Et qu'il est symptomatique de constater que s'y travaille, par contre, la porosité entre élite économique et responsable politique. Je ne vous fais pas la liste, hein, des gens qui sont partie de ces mains, mais ils sont cul et chemise et ils se voient d'un lieu à l'autre. C'est-à-dire là qu'ils sont partout, évidemment. Je n'ai rien dit sur deux autres vecteurs d'intervention du patronat. Hein. Il s'agit du financement des partis politiques par le patronat, ça c'est de l'intrusion, hein, directement politique, ou des efforts de coercition vis-à-vis du mouvement ouvrier pour imposer la loi de l'exploitation. Hein, on ne peut pas tout traiter, j'ai voulu faire particulièrement l'idéologie. En conclusion, la lutte de classe existe. Ce n'est pas une vue de l'esprit. La bourgeoisie, le patronat, a conscience, malgré ses contradictions internes, de ses intérêts collectifs. Un marchand de canons n'a pas les mêmes intérêts qu'un assureur. Mais ils ont des intérêts collectifs, et que la société telle qu'elle est organisée continue à être organisée comme elle est. Donc ils ont des contradictions. Mais ils savent s'organiser et ils s'en donnent les moyens. Cela ne signifie pas que les forces dominantes, économiques et politiquement, aient la partie gagnée. D'abord, parce qu'elles ont à faire face à une contradiction fondamentale. Elles sont engluées dans la logique infernale de recherche effrénée de profits élargis. On le voit actuellement avec la recherche de nouveaux marchés géographiques, mais aussi dans des domaines nouveaux, tels que la retraite, la santé, l'intime, la génétique. On invente même maintenant comment faire du profit sur les enfants des étudiants en plaçant déjà des produits pour on élargit la capacité de
l'armement
aussi. Oui, bien sûr. Donc, ça, c'est la contradiction fondamentale. Parce que... voilà, oui, c'est ça. Parce que, comme disait Marx, il faut savoir écouter l'herbe qui pousse. Et l'herbe qui pousse, ce sont à la fois l'élargissement objectif des cercles ayant intérêt, et des couches plus exactement, ayant intérêt à la transformation sociale et les résistances. Alors, j'ai écrit un peu trop vite. Du fait de la logique infernale de profit élargi, il y a élargissement des gens qui subissent cette politique. C'est ce que certains ont fait, les 1 pour, nous sommes les 99%. C'est ça que ça illustre. Mais il y a également, j'ai bien aimé, si vous étiez là, je ne vais pas le paraphraser, mais ce que disait Bessac tout à l'heure à l'ouverture, c'est toutes les luttes, toutes les résistances qui se cherchent, qui cheminent, qui cherchent dans ce bouillonnement et dans cette implacable volonté de recherche maximum des voies pour s'en sortir. Voilà, et moi je pense que les évolutions de la bourgeoisie en permanence témoignent des contradictions à laquelle elle a à faire face.